Merci également de cette invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici et puis de retrouver aussi des connaissances et puis aussi d'avoir ces regards croisés. Je m'étais dit en préparant, en entendant Sandrine, en disant ah, c'est marrant parce qu'en fait, on va parler de la même chose, mais de manière différente. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, de partager les regards en fait, et les expériences. Donc, j'ai voulu commencer en fait, finalement par où est-ce qu'on travaille. Les domaines d'intervention en fait, de MSF, ils couvrent quatre grands champs d'action, les conflits et les violences, l'absence d'accès aux soins, donc c'est souvent lié, les épidémies, les endémies, les catastrophes naturelles. Et notamment tout ce qui est conflits armés et situations d'instabilité interne, ça représente une part importante en fait, de nos projets, hein, plus de 40%. MSF, c'est une organisation médicale qui est, on va dire, généraliste. Dans ses activités, je vais vous donner en fait, des chiffres sur 2014, puisqu'on n'a pas les chiffres colligés pour 2015. Sur 329 projets, ça c'est à l'échelle en fait de toutes les sections MSF. Il y en avait 139 pour lesquels la santé reproductive était une activité principale. Donc c'est quelque chose en fait de notable aussi dans nos activités, même si elles sont aussi généralistes. Quand on parle de politique de soins de santé reproductive et de prise en charge des violences sexuelles, ça a été défini dans un document d'orientation stratégique médico-opérationnelle. Alors, il y a différents documents qui ont évolué. Le dernier date de mars 2014. Et dans ce document, on va indiquer quelles actions va mettre en place MSF en santé reproductive. Et le choix de ces actions, il est orienté en fonction de l'impact potentiel sur la mortalité. Donc, on va choisir des actions parce qu'elles ont un impact fort sur la mortalité maternelle. Donc ça va nous donner pour nous un ordre de priorité et aussi des choix d'action à réaliser. Et puis l'élément aussi important, c'est de traiter comme un ensemble la santé maternelle et néonatale. On parle aussi des mères, mais effectivement, dans les soins obstétricaux, quand on améliore en fait, la disponibilité et l'accessibilité aux soins obstétricaux, eh bien, on améliore aussi la mortalité périnatale. Donc les actions prioritaires... je n'invente rien de nouveau. Accoucher avec du personnel qualifié dans une structure de SONU, c'est l'intervention la plus efficace. Ça permet de réduire la mortalité maternelle, mais aussi périnatale. Deuxième action, les soins postnatales. Ce n'était pas forcément quelque chose sur lequel on avait mis l'accent. Alors qu'effectivement, on sait que 50% en fait, de la mortalité a lieu vraiment dans cette période phare qui est l'accouchement et les 24 premières heures du postpartum, mais il y a aussi 20% de mortalité entre le J2 et J7. Et puis les soins postnatales, c'est aussi une opportunité de parler planning familial. Et puis troisième point important, les soins relatifs à l'avortement, et je vais y revenir. La place de la consultation prénatale. Là aussi, en fait, pour être MSF depuis un certain temps, c'était historiquement, on était très quand l'approche par le risque, la consultation anténatale, et puis les choses ont changé avec les SONU. Mais ça a été important aussi d'écrire dans ce document stratégique, de dire que ça ne réduit pas réellement, enfin, ça réduit la morbidité maternelle et la mortalité néonatale, mais seules, elles n'ont pas d'impact sur la mortalité maternelle directe, et qu'il faut les mettre en complément des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Et donc, pour nous, ça a quand même une incidence. C'est-à-dire que quand on va faire des choix et mettre des actions, c'est SONU d'abord, et ensuite, nous ou d'autres partenaires, les consultations prénatales. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que ce n'est pas important. Hein. C'est essentiel aussi, la consultation anténatale. Mais on ne va pas le mettre en priorité. Ça reste quand même aussi une opportunité de promouvoir l'accouchement avec du personnel qualifié et puis de promouvoir aussi les soins postnataux. Donc les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, une action prioritaire avec des fonctions clés sur lesquelles je ne reviens pas, mais je réinsiste sur le N de néonataux. On a déjà parlé un peu de la césarienne. Effectivement, c'est une fonction phare des SONU, c'est souvent celle qui vient éclipser toutes les autres. Et c'est aussi important de rappeler, alors je suis gynéco-obstétricien et quand on travaille au département médical de MSF, on a affaire à toutes les spécialités. Chacun vient revendiquer ce qui est le plus important. Donc il faut aussi revendiquer à côté du chirurgien général que l'obstétrique, ça n'est pas que la césarienne. Donc dans ce document stratégique, on a aussi indiqué que les indications de césarienne, elles priorisent l'évaluation des risques maternels. Ce qui veut dire que dans certains contextes, dans certaines situations, on pourra décider de ne pas faire de césarienne d'indication fœtale pure. Et pour nous, c'était aussi important, en fait, de le dire. Même si ça n'est pas la majorité des situations, c'est en tout cas quelque chose qu'il faut réfléchir. Et puis, donc effectivement, MSF a une politique de provision de capacité chirurgicale en urgence. Je vous l'ai dit, on intervient dans beaucoup de situations de conflit, d'instabilité, dans lesquelles on va mettre des programmes d'accès à la chirurgie, dans lesquelles on fournira aussi la césarienne. Mais donc les soins obstétricaux, ce n'est pas que la césarienne, qui est souvent cette partie émergée de l'iceberg. Alors, pour vous, ça vous semble un peu évident, mais pour voilà, du personnel médical qui n'est pas dans la partie, il ne voit souvent que la césarienne. Et donc, c'est important d'expliquer qu'il y a tout un tas d'autres situations importantes à prendre en compte. Et donc, passer la phase d'urgence, où on va être avec un chirurgien général, avec peut-être une sage-femme, des infirmières, ensuite, dans les ressources requises, il faudra associer les compétences sage-femme, maïeutique, et les compétences obstétricales. Les soins obstétrico-néonataux d'urgence, donc c'est des fonctions clés, mais ça englobe aussi une assistante qualifiée à l'accouchement. Et cette assistance qualifiée, c'est deux choses, des ressources humaines et puis ce qu'on pourrait appeler un environnement qualifié. On l'a dit, c'est très bien d'avoir des ressources humaines, mais si on n'a pas de matériel, pas d'équipement, pas d'organisation, pas de management, ben, ça ne marche pas. Donc les ressources humaines, là, pour vous donner un peu une idée, en 2014, alors ce n'est pas spécifiquement sur les soins obstétricaux, hein, c'est toute activité confondue. C'est plus de 31 000 personnels nationaux et 2 700 personnels internationaux pour vous donner une idée du ratio. C'est-à-dire qu'effectivement, on envoie des expatriés sur le terrain, mais les expatriés, finalement, c'est qu'un dixième de la force du pouvoir humain sur le terrain. Donc je vous parlais d'environnement qualifié. La logistique, c'est quelque chose en fait, d'important aussi pour MSF et aussi ça fait sa force d'action. C'est ce qui va lui permettre de fournir un environnement qualifié et puis de fournir tout ce dont on a déjà parlé en termes de structure, d'eau, d'énergie, de stérilisation, de médicaments, de banque de sang ou de chaîne de froid. Quelle est la réalité dans les projets ? Donc en 2014, 114 projets ont fait de l'obstétrique. Quasiment 200 000 accouchements, 17 000 césariennes. Et en fait, il y a 5 pays qui trustent, j'allais dire, les 3/4 de cette activité obstétricale, qui sont l'Afghanistan, le Pakistan, la RCA, la RDC et le Sud-Soudan. Comme vous voyez, ce n'est pas les pays les plus stables et les plus développés, mais effectivement pour lesquels voilà, on a une activité forte dans ces pays. Nos projets, en fait, ils vont de petits projets où il y a 10 accouchements par mois jusqu'à de très gros projets où il y a plus de 1 000 accouchements par mois. Il y a 9 structures SONUC où il y a plus de 5 000 accouchements par an. Donc, ça, c'est aussi une gestion de projet, même si ce ne sont pas, enfin, c'est pas des projets... certains sont propres à MSF, mais d'autres sont en lien avec le ministère de la Santé, qui sont lourds en termes aussi de gestion hospitalière. Au-delà de techniques obstétricales, il y a aussi ça à prendre en compte. Et notamment en Afghanistan, sur le dernier chiffre, on a 3 projets où il y a 15 000 accouchements par an. Et 2 qui sont à Kaboul, qui sont liés à l'augmentation en fait, de la population urbaine à Kaboul. Elle a triplé en 15 ans. Et donc, les structures existantes n'arrivent pas à absorber la demande. Des chiffres de mortalité maternelle, ça représente quoi sur le terrain ? Les morts maternelles sur un projet MSF, ben, c'est parfois une seule dans l'année. Ça peut être une fois par mois et ça peut être parfois une par semaine. Là, je vous ai présenté simplement des projets du Centre opérationnel de Paris de 2014. Et effectivement, au Nigeria, à Jaoun, alors c'est un gros centre, hein, quasiment 7 000, enfin en 2015, c'est plus de 7 000 accouchements dans l'année, c'est une structure du ministère de la Santé, 91 morts maternelles. C'est pour donner aussi, voilà, qu'est-ce que ça représente, voilà. Et puis, rajouter une colonne quand même de pourcentage de grossesse et d'accouchements compliqués, parce qu'effectivement, pour l'analyser, il faut aussi mettre en parallèle le pourcentage de complications et en particulier à Jaoun et Nigeria, qui est dans un pays dans lequel, effectivement, il y a une instabilité, et Jaoun est au nord du Nigeria, avec une situation aussi économique difficile. Il y a un fort taux de complications, puisque 67% des admissions sont des patients compliqués. Alors, on a quand même, si on calcule le taux de létalité obstétricale lié aux complications, il est quand même élevé, puisqu'on est à quasiment 1,5%. Alors que d'autres situations, par exemple au Yémen, à Ramir, il n'y avait qu'une seule mort maternelle, avec quand même 43% de complications. Donc on avait un taux de létalité obstétricale qui était à 0,1%. Donc très bien, on a des morts maternelles, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc effectivement, un des travaux d'amélioration des pratiques, c'est des choses dont on a déjà parlé, hein, la revue de mortalité. Donc effectivement, s'attacher autant qu'on peut aussi avec les difficultés qui sont d'être capable d'aller au-delà des causes immédiates. Elle est arrivée, elle est trop malade, on ne pouvait rien faire. Oui, mais encore, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la démarche ? Effectivement, aller aussi des causes qui mettent en cause, j'allais dire, effectivement, les personnes. Parce que c'est une dynamique qui se met en place progressivement. Et puis, on essaie de mettre de manière formalisée une revue des échappées belles. Heureusement, dans un certain nombre de projets, il y a peu ou pas de mortalité maternelle. Donc, c'est une manière, en s'intéressant à la morbidité sévère, d'augmenter les opportunités d'analyse et d'amélioration. Et puis, c'est aussi une vision plus positive que la vision, en fait, entre guillemets, de l'échec de la mortalité maternelle. Un point important sur lequel on a déjà parlé, hein, l'avortement. L'avortement sans risque, c'est bien une question médicale. On a dit, hein, 13% des morts maternelles liées à un avortement non médicalisé et potentiellement une mortalité sous-estimée parce que sous-déclarée. C'est une mortalité évitable. Et MSF, dans une résolution de son Conseil international en 2004, avait clairement indiqué que la possibilité de recourir à l'avortement médicalisé, c'est-à-dire faire des IVG, doit faire partie intégrante des soins de santé reproductive. Et l'intervention des MSF dans ces interruptions de grossesse, elle est guidée par des besoins médicaux. On se place dans le champ médical. Donc l'avortement, un besoin négligé, avec trois grands volets qu'on va essayer de mettre en œuvre pour réduire la mortalité maternelle liée à l'IVG, l'accès à la contraception, on a déjà parlé, le traitement des complications, et puis aussi la pratique médicalisée de l'interruption de grossesse. Donc cette résolution, je vous l'ai dit, elle date de 2004, mais ce n'est pas facile en fait, hein, sur le terrain. Et il faut bien dire qu'il y a une mise en œuvre difficile et qu'on juge aussi insuffisante de la pratique de l'interruption de grossesse. Ça s'explique aussi parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de barrières, une législation restrictive, certes, mais pas seulement, des barrières sociales, religieuses, culturelles. Donc comment est-ce qu'on agit ? Une chose qui est un peu symbolique, mais qui semble importante... On écrit, en fait, on a souvent des protocoles médicaux. Il y a un protocole médical pour l'IVG qui n'a rien de très spécifique. Hein. On avait écrit une première version, je crois, en 2007 ou 2008. Et on édite un guide des soins obstétricaux. La dernière version date de 2015. Et on a inscrit un 12e chapitre qui s'appelle « Interruption volontaire de grossesse ». Et il faut quand même dire que ça fait quand même l'objet de discussions entre nous, en disant « Est-ce qu'on peut le mettre ? Est-ce que ça va faire partie ? Comment ?» Et en disant « Oui, ça fait partie des soins obstétricaux. Non, Sandrine l'a dit très bien, c'est-à-dire que c'est se poser la question, cette patiente qui vient en début de grossesse, est-ce que cette grossesse est désirée ? Donc c'est un peu symbolique, mais ça aussi sa place. Et puis, comment est-ce qu'on va essayer de faire la mise en œuvre ? L'idée, c'est d'arrêter de répondre à une patiente qui se présente dans un projet MSF en disant je souhaite une interruption volontaire de grossesse, de dire... Ah, c'est pas possible, c'est interdit. Aller au-delà de ça, ça ne veut pas dire que parfois, on le fera toujours, mais c'est être capable d'aller au-delà de ça. Et pour aller au-delà de ça, c'est mettre en place pour nous une analyse de situation, qui est une analyse de risque, qu'on va faire effectivement avec les gens qui sont sur le terrain, avec aussi la coordination du terrain, la coordination du siège, en lien avec le département légal, et puis les collègues ici, qui sont aussi référents sur la santé des femmes, pour analyser quelle est la législation, parce qu'on travaille dans un certain nombre de pays et connaître les arcanes de la loi, ce n'est pas très simple. Quelles sont les réelles exceptions ? Quels sont les risques en fait, pour le personnel soignant ? Quelle est l'acceptation réelle en fait, de l'IVG dans le pays ? Prendre en compte aussi comment est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on a une structure avec le ministère de la Santé ? Est-ce qu'on a accès au bloc ou pas ? Et puis, au-delà du positionnement juridique, quel est le positionnement du ministère de la Santé ? Quel est le positionnement des autorités médicales ? Et on va pouvoir trouver une marge de manœuvre. Et souvent, on met en avant la barrière juridique. Et quand on discute avec notre département légal, ils disent « mais c'est pas si vrai que ça ». C'est-à-dire qu'il y a des tas d'exceptions. Et on peut trouver la brèche. Il me semble que c'est 5 ou 6 pays pour lesquels il n'y a aucune exception à l'IVG. Et aucun de ces pays n'est en Afrique, aucun de ces pays n'est en Asie. Il me semble de tête, c'est le Chili, Malte, Salvador, Nicaragua et République dominicaine, il me semble. Oui, le Vatican aussi, mais on n'y travaille pas. Donc voilà, en pratique, c'est difficile d'avoir des données chiffrées, mais en 2014, on a réalisé à peu près un peu plus de 200 en fait, interruptions volontaires de grossesse. Je veux dire, c'est pas beaucoup, hein, sur 22 projets. L'idée pour nous n'est pas de développer une offre d'IVG, mais bien d'être en capacité, par contre, de répondre à un besoin médical. On a parlé beaucoup de mortalité maternelle directe. La mortalité maternelle indirecte, elle existe aussi, avec en avant notamment les infections. Et je voulais faire un petit point sur Ebola, en reprenant des éléments d'une présentation qu'a fait ma collègue Cyrine Callowartz, qui est gynéco-obstétricien, qui travaille avec MSF Belgique et à l'IMT d'Anvers. Ebola, épidémie en mars 2014 en Afrique de l'Ouest, trois pays touchés essentiellement, Guinée, Sierra Leone, Libéria. Plus de 28 000 cas, plus de 11 000 morts. Ça a été une charge très importante, en fait, pour MSF. Alors, je n'y suis pas allée, mais j'ai participé à la réflexion derrière de comment est-ce qu'on prend en charge. Il faut savoir qu'il y a des questions qui se sont posées sur la prise en charge obstétricale. Quand l'épidémie commence, il y a très peu de données dans la littérature. Il y a deux épidémies sur lesquelles on a décrit, en fait, la survie maternelle, c'est en 76, je crois en 95. Mortalité maternelle estimée à 90%, mortalité périnatale 100%. Pas de traitement spécifique, une transmission virale que vous connaissez avec les fluides corporels, et donc dans les maternités pour les soins obstétricaux, un risque nosocomial majeur pour les soignants et aussi pour les accompagnants. Donc il a fallu réfléchir, on partait de rien en disant quelle prise en charge spécifique on va faire. Donc il y a un document d'orientation qui a été fait, on était rendu à la V5 fin 2015. C'est vrai que la priorité, elle a été donnée à protéger les soignants. J'y reviendrai, il y a plus de quasiment 900 soignants qui ont été touchés dans cette épidémie sur les trois pays et plus de 500 qui sont décédés. La prise en charge, elle est pas spécifique. Hein, suspicion ou Ebola avérée, nécessité d'isolement dans un centre de traitement d'Ebola. Une difficulté un peu particulière pour les femmes enceintes, c'est effectivement la confusion éventuellement entre les symptômes d'une pathologie obstétricale, douleur abdominale, métrorragie. C'est une pathologie obstétricale pure ou c'est de l'Ebola ? Les contraintes de la prise en charge, c'est pas de chirurgie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de chirurgie dans un contexte avec des patients Ebola. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avec votre équipement et la prise de risque, elle est majeure. Ça veut dire une patiente qui on ne fait pas d'épisiotomie, elle accouche, elle a une déchirure, elle n'est pas suturée. Si vous piquez, c'est 100% d'infection pour le soignant. Donc il y avait toute cette réflexion, comment est-ce qu'on fait, quelle éthique, comment on prend en charge. L'idée, ce n'était pas de procédure invasive, donc privilégier les administrations orales. Donc on va privilégier le misoprostol en prévention de l'hémorragie du postpartum. On va privilégier, pareil, le misoprostol, alors ça sert à plein de choses, la fausse couche incomplète, déclenchement de l'accouchement sur la mort fœtale in utero. Alors, il faut savoir qu'après, il y a des choses où il y a quelques procédures plus invasives qui se font se faire. Il y a trois transfusions sanguines qui ont été faites chez des femmes enceintes et qui vont survivre, qui ont été faites. Mais voilà, c'est quand même ça le challenge. Le challenge, c'est l'organisation de l'accouchement dans un centre de traitement Ebola. Vous avez dû voir des images à la télé, comment ça se présente. Ben, ce n'est pas très simple, il y a les contraintes de la zone à risque, un équipement de protection individuelle, maximum une heure et demie dans la zone à risque. Donc idéalement, là aussi on fait des schémas, on se prend la tête pour savoir comment on va organiser, trois personnes pour l'accouchement, une qui est un peu celle qui pilote l'accouchement, un aide, et puis une troisième qui est là pour surveiller la monte, vérifier qu'il n'y a pas de faute, une vérité d'hygiène, et puis un sprayeur de chlorine. Des choses très spécifiques qui sont que ces patientes arrivent dans le centre et on va attendre la négativation de la virémie pour éventuellement déclencher, même si elles savent qu'elles ont une mort fœtale in utero. Ça va mettre une dizaine de jours pour que leur virémie se négative. Autrement, il y a un risque de CIVD. Et puis, une problématique aussi particulière des femmes enceintes, c'est-à-dire qu'elles peuvent guérir. Elles ont une virémie, leur PCR dans le sang est négative, mais elles sont toujours potentiellement infectantes parce que le liquide amniotique, le placenta et le fœtus, c'est toujours porteur de virus, ce qui veut dire que même si elles sont guéries, on va leur demander de rester dans le centre jusqu'à temps qu'elles accouchent. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de mortalité périnatale. Un certain nombre, en fait, vont sortir, mais on va leur demander de revenir dans le centre pour ne pas être contaminante, en fait, pour les autres. Donc, tout un tas de questions qui se sont posées. Femmes enceintes survivantes d'Ebola, on ne sait pas combien... là, c'est vraiment des estimations un peu grossières, parce qu'on n'a pas... toutes les femmes n'étaient pas testées, n'avaient pas de test de grossesse initialement, au tout début. Ensuite, ça s'est fait avec les études. Donc, une première estimation où on se dit sur la Sierra Leone, il y a eu 31 patientes enceintes et 15 survivants, donc 46% de survie. Vraisemblablement, nos patientes enceintes, elles étaient sous-représentées. Donc, si on reprend la représentation normalement des femmes enceintes dans la population, on aurait dû attendre 68 patientes sur nos 1570 patients, donc ce sera à 22% de survie. Dans tous les cas, notre survie, elle reste, enfin notre, pas la mienne, mais... Je suis attachée à cette question. La survie de ces patientes, elle reste supérieure à ce qui était connu dans la littérature, ce qui veut dire aussi qu'il faut se battre en fait pour ces patientes. Ceci étant, 100% de mortalité périnatale, 98% d'avortement ou mort fœtale in utero. Il semble qu'il y a eu deux nouveaux-nés nés vivants, un décédé à J2 et l'autre à J19. Et puis pour terminer, dans cette mortalité maternelle indirecte liée à l'Ebola, plus que le virus, finalement, ce qui va... Il y a des études qui sortent sur la mortalité maternelle compromise par le défaut d'accès et disponibilité aux soins obstétricaux pour les patientes Ebola et pour les patientes non-Ebola. Donc plus de 500 personnels soignants décédés dans l'épidémie. Et donc un impact aussi sur le système de santé, les soins obstétricaux qui ont été désorganisés. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.
Merci.